7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. La rentrée scolaire en France, c'est pour lundi prochain, mais déjà les cartables sont bouclés pour les enseignants qui font leur pré-rentrée aujourd'hui après une année plutôt mouvementée. Stylo rouge, grève des directeurs d'école, grève de certains correcteurs du bac, bref. Les profs sont-ils encore sous pression par trop de réformes, trop peu de moyens et trop peu de concertation? École obligatoire dès 3 ans, dédoublement de classe en CP-CE1 dans plus d'écoles, formation des enseignants, réforme du lycée avec la fin des filières scientifiques, littéraires, etc. Prise en charge des élèves handicapés. On pourra peut-être pas aborder tous les sujets, mais au moins palper les malaises et les interrogations des enseignants, alors que des préavis de grève courent pour tout le mois de septembre. Marion Armango, bonjour.
Bonjour.
Je prononce bien votre nom
oui,
de famille.
Parfait.
Vous avez enseigné dans des écoles maternelles et primaires en Seine-Saint-Denis en tant que remplaçante, non titulaire. Ce que vous avez vu et vécu pendant un an, vous l'avez consigné comme un journal dans un récit édifiant. Ils ont tué l'école, ce que les profs ne peuvent pas dire aux éditions du Seuil. Ça veut dire qu'au bout d'un an, là maintenant, il n'y a plus de rentrée scolaire pour vous?
Non,
vous
pas
ne
cette
rempilez
année.
Pas
Non, je ne rempile pas cette année. Mais je souhaite bien du courage à tous les enseignants qui sont en train de se préparer pour cette rentrée.
Vous avez passé un an finalement à tomber de l'armoire, comme on dit familièrement. Et quand on vous lit, c'est vrai aussi qu'on tombe de l'armoire. Moi-même, je lis depuis des années des livres, des récits d'enseignants. Et je dois dire que là, on se demande si on peut tomber encore plus bas. Valérie Sipaï-Malani, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire générale adjointe du syndicat des enseignants du secondaire, le SNES, on parlera aussi. Aussi bien sûr avec vous de ce qui attend le lycée notamment, et puis des discussions sur la rémunération des enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'attentes de ce côté-là. On est également en ligne avec Béatrice Pina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du mouvement Les Stylos Rouges, en référence aux Gilets jaunes, collectif de personnel de l'éducation nationale. Et vous-même, vous enseignez en cours préparatoire dans une école primaire à Créteil, en réseau d'éducation prioritaire. C'est bien cela?
C'est ça, absolument.
Et quant à vous les voisins, si vous vous sentez concernés par le sujet, par la rentrée scolaire en France, bien sûr, vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Et en fin d'émission, comme chaque vendredi, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Avec d'ailleurs une série consacrée à l'adolescence qui démarre aujourd'hui. Premier numéro, la crise d'adolescence est-elle universelle? Vaste question.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Marion Armango, le journal Libération consacre aujourd'hui sa une à ces adultes qui s'inventent une deuxième vie en devenant prof. D'ailleurs, vous avez votre place dans cette enquête. L'envie d'être utile, d'exercer un métier qui a du sens. C'était votre cas, Marion, après 8 ans de journalisme pour devenir maîtresse d'école, comme disent les enfants?
Exactement, oui. Après 8 ans, j'avais envie de trouver un métier qui avait plus de sens que ce que je faisais depuis quelques années. Plus concret.
Comment on obtient un contrat d'enseignement non titulaire remplaçante alors qu'on est journaliste et que vous n'avez jamais été formée
Absolument pas. J'ai une formation du coup qui est liée au journalisme. Et ça a été le premier étonnement, c'est que du coup j'ai voulu me diriger vers l'enseignement et j'ai vu que je pouvais tester le métier en étant contractuelle et juste en postulant avec un CV, une copie de mes diplômes. Il faut savoir qu'une licence suffit, peu importe le domaine de la licence, pour pouvoir postuler. Et donc j'ai envoyé une candidature et puis j'ai tout de suite été appelée pour un entretien qui a duré 20 minutes, qui a été la première étape hallucinante de cette année scolaire, puisque j'ai été reçue par un inspecteur d'académie qui m'a posé donc des questions au chronomètre sur 20 minutes et qui n'a posé absolument aucune question pour évaluer mes connaissances dans une quelconque matière, quoi. En fait, il s'agissait plutôt d'évaluer mon sens des responsabilités, ouais. De voir si j'étais plutôt équilibrée.
Ouais, parce que journaliste, bien. Vous n'êtes pas censé savoir faire une division, par exemple.
Oui, c'est ça.
Enseigner la technique de la division.
Ah oui, et puis on ne s'improvise pas enseignant, hein, bien sûr.
En 24 heures, vous vous êtes retrouvée seule devant une classe.
C'est ça.
Mais comment c'est possible?
Ah bah, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, hein. J'ai improvisé, j'étais la première étonnée. C'était assez étrange d'un seul coup d'avoir 25 élèves devant moi qui attendent moi que je fasse classe, qui m'appellent maîtresse, et il faut que je comprenne à ce moment-là qu'en fait il s'agit de moi et qu'on m'interpelle, alors que la veille... Bah, j'étais journaliste et que voilà.
Vous changez d'école parfois tous les jours, au gré des arrêts maladie des enseignants que vous remplacez.
Ou des formations, ça dépend, mais des formations qui sont pourtant anticipables. Et pour autant, je suis appelée le matin, sans savoir où est-ce que je vais être envoyée.
Et comment ça fonctionne alors? Le matin, vous appelez, vous allez dans votre école de référence où vous n'enseignez pas.
Voilà,
vous êtes,
exactement. Nous attitre à chacun une école de référence, on est censé y aller tous les matins. Et puis attendre le coup de fil, qui n'arrive souvent jamais. Donc on a une personne référente qu'on appelle la gestionnaire, qui en fonction de l'agenda et du calendrier voit ce qui se passe et où est-ce qu'il y a des manques à combler dans les différents établissements. Et il nous envoie le matin, donc généralement en fait c'est moi qui prenais les devants et qui appelais, et même plusieurs fois, parce que sinon personne ne m'appelait. Et donc vers 8h30, 9h, pour me dire, bah, tu files à l'autre bout du 93, dans telle et telle ville.
En Seine-Saint-Denis, donc. Hein.
En Seine-Saint-Denis. Et puis, sans être capable de me dire quelle classe je vais avoir. Donc, juste telle école, et puis t'y vas, et puis tu découvres, et c'est parti pour l'improvisation.
Vous entrez dans ces écoles un peu comme un moulin, personne pour vous renseigner, c'est à vous d'enquêter pour savoir dans quelle classe il manque un enseignant ou une enseignante.
Oui, c'est totalement hallucinant, ouais. Oui, la plupart du temps, le portail est ouvert, je rentre dans l'école, personne n'a jamais vérifié en une année scolaire mon identité. Donc, bonjour, je suis remplaçante. Quand je trouve quelqu'un...
Vous avez une bonne tête, hein, ceci dit. Ça, on vous fait confiance. Mais... Non, mais puis, trait de plaisanterie, c'est...
Oui, souvent, je déambule dans les couloirs. Je découvre l'école comme ça. Puis, je passe une tête au-dessus d'une fenêtre de classe jusqu'à ce qu'un enseignant remarque ma présence pour me dire « Pourquoi t'es là? Qui es-tu ?» Et puis, j'explique que je suis remplaçante, mais je ne sais pas pour quelle classe. Et puis, soit on me renseigne ou pas, ou on m'invite à faire le tour des classes de l'école pour aller récupérer les élèves qui n'ont pas d'enseignant.
Qui ont été dispatchés, répartis dans les différentes classes. Vous êtes dans le département le plus jeune, le plus pauvre de France. Quel est ce que vous décrivez bien dans le livre, quel est le décalage entre les objectifs affichés par le ministère, la bonne volonté aussi affichée par l'institution et la réalité?
Alors déjà, la première difficulté pour moi, ça a été que, étant donné que je n'ai reçu aucune formation de l'année, il a fallu que je me renseigne moi-même pour connaître les programmes, puisque vous savez bien quand on arrive, maternelle et élémentaire, moi savoir la différence des objectifs entre le CE1 et le CE2, même ce que je suis censée faire apprendre en maternelle.
On vous a pas donné un document?
Rien. Je n'ai rien eu. J'ai dû me débrouiller toute seule. Merci à la solidarité des enseignants qui ont des blogs et des sites et qui font des groupes sur les réseaux sociaux pour se donner des conseils, s'aider et voilà, mettre le matériel pédagogique à disposition de tous. Mais ça a été mon seul outil de travail. Donc après, il a fallu que je saisisse donc de moi-même sur Internet quels sont les programmes et quels sont les objectifs. Et après, donc, j'ai été confrontée à, c'est super, j'ai compris qu'en CE1, je suis censée enseigner ça, mais la réalité, c'est que quand je mets en place un exercice, dans cette classe de CE1, je suis déjà super fière de moi parce que j'ai trouvé le bon exercice et que j'ai l'impression que ça va le faire. Et en fait, non, il y a un décalage énorme entre les objectifs et la réalité, ce qui fait que bien souvent, malheureusement, on arrive en CM1, CM2, et je tombe pas sur un élève, mais plusieurs, où on ne sait toujours pas lire et écrire.
CM1, CM2, c'est-à-dire un an avant l'entrée au collège, en sixième. Hein.
C'est ça.
Vous décrivez des classes pratiquement entières où les élèves ne maîtrisent pas la lecture, parfois.
Ah oui. Enfin, il y a un gouffre, quoi. Je ne sais pas comment dire.
Qui contrôle votre travail en tant que remplaçante enseignante auprès d'enfants?
Personne. Il y a eu aucun contrôle sur toute
l'année scolaire. Il y a des directeurs d'école primaire?
Oui, bien sûr. Alors après, évidemment, il y a le regard du directeur de l'établissement où si vraiment il y a un incident majeur ou qu'il y a quelque chose à constater, évidemment, il peut faire remonter l'information. Et j'ai constaté que c'est arrivé une fois. Moi, sur le terrain, qu'un contractuel vienne, prenne une classe et se permette de ne rien faire aux élèves de la journée et rester branché sur son téléphone à demander aux élèves de mettre la tête dans les bras et le silence complet. Et là, la directrice de l'établissement l'a signalé à l'inspection. Mais sinon, vraiment aller dans le détail des apprentissages qui sont mis en place et de comment est-ce que je fais fonctionner ma classe, quelle relation j'ai avec les élèves et voilà, et comment est-ce que je m'en sors et est-ce que j'arrive aux objectifs.
C'est parce que vous étiez remplaçante, il faut l'admettre.
Oui,
bah alors. Que donc, cette situation dysfonctionnante était en principe temporaire.
Bah, c'est ce qu'on se dit sur le papier. Bah, moi, pour me rassurer, en étant envoyée sans formation, j'avais un peu honte vis-à-vis de mes élèves, en me disant c'est pas cool, quoi, ils vont recevoir une maîtresse qui n'est pas capable. Et après, je me disais bon, ça va, je suis là une journée, deux journées, leur scolarité n'est pas entre mes mains non plus. Enfin, je veux dire, je fais ce que je peux, et voilà. Sauf que la réalité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de contractuels qui ont des classes à l'année. Ça se vérifie encore, là, cette rentrée scolaire, pour avoir une amie qui est en train de signer son premier contrat. Elle a une classe, elle est contractuelle, elle n'a pas de formation et on lui donne une classe. Et ce qui a été mon cas à partir du mois de décembre, on m'a attitré une classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc oui, on pourrait relativiser en se disant c'est du remplacement, mais sauf que en réalité, les contractuels ont bien souvent des classes.
Valérie Sipahi-Malani, dans le secondaire, il y a ce problème également des contractuels.
Alors, nos amis contractuels n'aimeraient pas qu'on les traite de problème non plus. Il faut qu'on fasse un tout petit peu attention. Hein.
Le problème ne vient pas de même.
Alors moi, je connais pas précisément la situation du premier degré. En effet, dans le second degré, on a 20% de contractuels à Créteil, qui pour certains sont des personnels très expérimentés, pour d'autres sont recrutés dans les mêmes conditions que Marion, parce qu'on trouve pas de profs. Nous, il nous manque 700 profs dans le second degré à la rentrée, parce que le ministère a décidé de diminuer le nombre de postes au concours. Quand on diminue le nombre de postes au concours, les étudiants se disent « il y a moins de place, ben je vais essayer un autre métier ». Et finalement, comme on a encore moins d'étudiants, on recrute encore moins que si on avait une demande plus forte. Donc on se retrouve avec un manque criant de professeurs. Dans le second degré en particulier, on n'a pas de prof de maths. Et donc qui veut être prof de maths à Créteil n'a qu'à se signaler au rectorat, il est sûr de pouvoir avoir une classe et donc avoir un salaire. Et enseigner, c'est quand même un métier qui s'apprend. On peut pas lâcher comme ça, des jeunes collègues dans la nature sans leur donner un coup de main. Donc j'espère que ce qui vous est arrivé est quelque chose de rare, même si je crains que ce ne soit pas le cas.
Poursuivons sur le décalage et on va donner la parole à Béatrice Pina qui représente le mouvement des stylos rouges et qui est elle-même enseignante en école élémentaire. Mais Marion Armengo, vous décrivez des pannes de chauffage récurrentes en plein hiver, des vitres cassées, des écoles, vous l'avez dit, ouvertes à tout vent. La porte d'entrée souvent de l'école ne ferme pas et cassée elle-même, des rats dans la cour, des crottes de rats dans le dortoir des enfants pour la sieste. Vous l'avez vu ça aussi ?
Oui, bien sûr. Oui.
Dans une classe de CP-CE2, vous décrivez un seul livre de lecture pour toute la classe. Mais là, on se demande si vous n'avez pas inventé.
J'aimerais, vraiment. Je vous jure que j'aimerais.
Les manuels scolaires sont distribués en début d'année gratuitement aux élèves.
Alors là, je vous laisse sur le fonctionnement.
Béatrice Pina, vous qui êtes enseignante en cours préparatoire.
Oui, il y a un budget, une dotation de la commune chaque année qui est attribuée par classe. Et l'enseignant est libre. Alors j'ai un énorme retour, je vous dis, dans le téléphone.
Ah, vous êtes gênée par un retour, on va essayer d'arranger ça tout à l'heure.
Oui. Merci beaucoup. Donc, il y a un budget par élève qui est attribué à un enseignant. Mmh. Et l'enseignant est libre d'utiliser ses fonds comme bon lui semble pour acheter des fournitures, des cahiers, des manuels. Mais voilà, en fait, ça dépend réellement des communes. C'est-à-dire qu'il y a certaines communes qui ne donnent qu'une dizaine d'euros par élève. Il y a des communes qui sont effectivement pauvres. Et puis d'autres communes où l'on donne quasiment 40 euros par élève pour l'année par enseignant.
Ce qui veut dire...
Donc, il y a des grosses inégalités en réalité entre communes.
Oui, et ce qui veut dire que quand on parle de réseau d'éducation prioritaire, c'est là en général que vous avez la plupart du temps été muté, été
oui,
affecté.
90%.
Ouais. En réalité, ce sont des écoles qui ont encore moins de moyens.
Oui, et c'est ça ce que j'ai découvert aussi. C'est du coup ce fonctionnement où de la ville dépend les moyens matériels en fait, et l'infrastructure et les établissements. Et bah de là naît l'inégalité de base. Quoi,
mais alors, en cette rentrée, l'expérience des classes dédoublées avec 15 élèves maximum va être élargie à toutes les classes de CP-CE1 en réseau d'éducation prioritaire. Vous avez expérimenté ce luxe-là?
Oui. ça commence à être mis en place. Alors moi, sur le papier, je trouvais ça super. Moi, je suis très naïve, hein. J'ai tout découvert de cet univers. Donc, je me disais, bah super, moins d'élèves, donc un enseignant qui est plus disponible. Et puis après, j'ai parlé avec des collègues, parce que je voyais qu'ils n'étaient pas complètement convaincus. Enfin, j'avais l'air d'être la seule qui était enchantée. Et en fait, on m'a répondu, bah oui, c'est super, mais en fait, vu qu'il y a encore des postes vacants, qu'il y a des contractuels comme toi pour enseigner, c'est bien divisé, mais non seulement seulement on n'a pas de classe libre pour accueillir ces classes supplémentaires, donc génial, on en fait quoi? Il y a une réalité de terrain qui n'est pas du tout prise en compte.
C'est divisé ou c'est pas divisé? Il y a la place ou il n'y a pas la place?
Il y a les locaux. On se débrouille avec un coin bibliothèque, on se débrouille en fait. Mais de toute façon, ça n'est que de la débrouille. Et puis en plus de ça, super de diviser ces classes-là, mais si c'est pour mettre un enseignant contractuel qui n'a pas de formation, même si je ne les critique pas tous, hein, j'espère avoir fait quand même un bon travail. Enfin, en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est quand même complètement dingue.
Le dispositif, Béatrice Pina, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il concerne 300 000 élèves, il devrait être appliqué à 450 000 enfants d'ici la fin du quinquennat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continuera à bricoler, qu'il va s'améliorer? Comment vous voyez les choses?
Alors, il y a plusieurs choses. Moi, en tant qu'enseignante de CP, avec un dispositif en REP habituel, puis un dédoublement des CP, j'ai réellement vu la différence. C'est-à-dire que en ayant 15 élèves par classe l'année dernière, j'ai vraiment pu travailler bien mieux avec les élèves. Ensuite, effectivement, dans de nombreuses communes, il n'y a pas de classe suffisante pour permettre 15 élèves par classe. Donc finalement, on se retrouve parfois à 30 dans une classe. Donc là, il y a encore une différenciation importante entre les communes. Ensuite, dans le 93... cette année, il n'y aura pas un dédoublement des CE1, alors que c'est le département le plus pauvre qui a le plus de difficultés par manque de postes. Et là, je rejoins un petit peu ce que disait Marion sur le recours aux contractuels. Pourquoi est-ce qu'on recourt ainsi aux contractuels? Pourquoi est-ce qu'on manque d'enseignants? Parce qu'on ne recrute pas assez d'enseignants. Et même dans l'Académie de Créteil, le nombre de postes offerts au concours, on n'arrive pas à recruter suffisamment d'enseignants. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de volontaires. Et là, je pense qu'il faut vraiment que le ministère s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de candidats au concours de professeurs des écoles. Les conditions de travail, mais également les salaires.
Alors, il n'y a pas que le manque de moyens financiers, le manque de personnel, Marion Armengaud, parce que il y a aussi des dysfonctionnements dans le dispositif de l'éducation nationale, en tout cas dans le département dans lequel vous avez enseigné, la Seine-Saint-Denis. Il y a un chapitre où vous décrivez qu'un homme a fait irruption dans l'école où vous êtes ce jour-là, un homme dérangé mentalement, potentiellement violent, qui s'introduit dans l'école, qui s'en prend aux élèves. On vous propose une cellule d'écoute psychologique une fois que cette personne est maîtrisée par la police. Tout ça semble très long, les moments où vous restez tous dans cette école confinée avec cet homme. Et finalement, comment est gérée cette affaire de manière assez curieuse?
Ah bah scandaleuse, encore une fois, hein. Je pensais pas avoir à vivre une telle situation, mais effectivement, donc un homme déséquilibré est rentré dans l'école, a fait irruption dans une classe, s'est mis à hurler des choses complètement incohérentes et violentes parce qu'il était en plein délire, est rentré dans l'école puisque donc la porte était cassée et que des demandes de réparation avaient été faites depuis des années sans que personne ne prenne la peine de venir réparer cette porte. Et donc la police armée a fait irruption dans l'école pour pouvoir maîtriser et sortir cet individu. Le confinement de toutes les écoles du quartier a donc été déclenché et la cellule de crise a débarqué une heure plus tard dans l'établissement.
C'est quoi la cellule de crise?
Du coup, j'ai découvert et en même temps, je serais pas tellement vous dire, parce qu'ils n'ont pas vraiment répondu pour moi aux objectifs, enfin ils n'ont pas du tout joué le rôle qu'ils auraient dû avoir, parce que moi j'étais complètement sous le choc. Enfin, vous imaginez bien que toute l'équipe pédagogique qui doit faire face à une telle situation, on a des images, on a notre classe avec les enfants, enfin c'était vraiment traumatisant quoi. Donc une fois que ça s'est arrêté, on a quand même un peu toutes fondu en larmes sous le choc. La cellule était là, et donc à notre demande seulement, on avait le droit de voir une psy. Donc j'ai demandé à voir quelqu'un pour exprimer tout ce que j'avais ressenti, les images que j'avais eues, quelle version j'avais donnée aux élèves, comment réagir vis-à-vis des parents, comment réagir vis-à-vis des enfants qui vont être confrontés aux autres excuses que les maîtresses ont données pour pouvoir les canaliser et pas paniquer toute l'école. Comment est-ce que je devais réagir? Et la seule réponse qui m'a été donnée, c'est « ne vous inquiétez pas, on va mettre en place une stratégie de communication, vous en serez informés. Par contre, vous n'avez pas le droit de parler aux parents. » Vous renvoyez vers nous ou vers la directrice de l'établissement, une version sera donnée.
Aujourd'hui, voilà. Vous êtes libre de parole, vous n'enseignez plus, ouais. Marion Armengaud, vous publiez « Ils ont tué l'école ». Depuis quelques années, il faut quand même le dire, l'accès des journalistes à ces questions est très verrouillé, en particulier évidemment en Seine-Saint-Denis, parce que c'est là que ça dysfonctionne le plus, très verrouillé par le ministère de l'Éducation nationale. On a peu de reportages, peu d'images, télé, radio. Pour notre émission, notre reporter Alice Milo s'est vu refuser toutes les autorisations de reportage depuis plus d'un an en Seine-Saint-Denis. Alors, est-ce que les parents sont au courant de tout ce que vous décrivez dans votre livre?
Bien sûr que non. Non, non, puisqu'il y a des consignes et que les enseignants font... déjà, qui est-ce qui irait rapporter aux parents? C'est les élèves les enseignants font tout ce qu'ils peuvent pour que les élèves se rendent le moins compte possible des dysfonctionnements, puisque les enseignants font au mieux pour leurs élèves. Et donc, non, non, bien sûr que non. Je ne pense pas que les parents soient au courant, effectivement, de tout ce qui se passe réellement, quoi.
Béatrice Pinard, vous avez le sentiment également qu'aujourd'hui, il y a un problème de... on va dire qu'on n'a pas envie de savoir ce qui se passe réellement dans ces écoles très défavorisées.
Je pense qu'effectivement, il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens qui ne date pas de ces dernières années. Donc en sous-investissant l'école et aussi en laissant, parce que les locaux sont à la charge des mairies, les mairies qui souvent ont également peu de dotations, qui ont vu leur dotation fondre. C'est ces deux données-là qui font que aujourd'hui de nombreuses écoles sont dans de très très mauvais états. Ensuite il y a le phénomène pas de vague dont vous parlez un petit peu, effectivement. Il y a une pression pour que
qui est largement aussi quand même dénoncée par les enseignants eux-mêmes sur les réseaux sociaux, notamment par les stylos rouges et pas que.
Voilà, tout à fait.
L'école obligatoire à 3 ans, avant c'était 6 ans, à partir de cette rentrée, donc c'est 3 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire aux unes et aux autres, là, Béatrice Pina?
Alors moi je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait une instruction obligatoire à partir de 3 ans. Le problème c'est toujours le problème des postes. S'il y a une petite augmentation d'élèves qui sont scolarisés, dans certaines académies, ça va réellement poser des problèmes puisqu'il n'y aura pas suffisamment d'enseignants et d'ouverture de classe et aussi plus de locaux. Bon, d'une part. Deuxième chose, c'est en rendant l'instruction obligatoire dès 3 ans, cela oblige les communes à financer les établissements privés sous contrat. C'est-à-dire que, en gros, chaque euro dépensé pour un élève dans un établissement public doit être également dépensé pour un établissement privé sous contrat.
Oui, alors qu'avant, c'était à partir du CP.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est une charge encore supplémentaire pour les communes qui seront, dans la loi bancaire, il est indiqué que pendant un temps compensé, mais pendant un temps seulement. Voilà, il n'y a pas de financement pérenne. Donc, finalement, ça fait encore moins de budget pour l'éducation nationale, pour nos écoles, alors qu'on en a bien besoin.
Dans ces communes et dans ces établissements scolaires, Marion Armengaud, que vous avez sillonné en Seine-Saint-Denis pendant un an, vous avez des enfants qui sont très attachants, qui viennent des quatre coins de la planète, pauvres la plupart du temps, qui souffrent aussi souvent de carences éducatives, pas forcément de maltraitance, mais de carences éducatives, ça veut dire pas de petit déjeuner, des vacances devant la télévision. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin face à tout cela, finalement?
Justement, pour moi, j'avais l'image, l'école, les souvenirs que j'en garde, moi, qui n'ai fréquenté que des établissements publics. Pour moi, l'école, ça doit être le petit paradis, quoi. Justement, ça doit mettre tout le monde au même niveau. On passe le pas de la porte de l'établissement et puis c'est joyeux, on est là pour apprendre. Voilà, c'est peut-être très naïf de dire ça, mais c'est l'image que je m'en fais et c'est ce que ça devrait être pour moi. Donc, justement, être dans des milieux où bah, peut-être c'est pas la joie tous les jours à la maison, c'est leur offrir tous les moyens nécessaires pour les stimuler et que quand ils aillent à l'école, bah, ils soient contents de retrouver les copains, la maîtresse, qui ressort tous les jours avec de nouveaux apprentissages acquis. Quoi.
Vous étiez payée combien par mois, Marion ?
J'étais à 1800 brut.
Parce que contractuel, donc il y a aussi des primes de...
Pour les REP, ouais. REP, REP+, plus. Précarité, me semble pas, non, pas pour les contractuels. Mais j'étais mieux payée qu'un enseignant qui vient d'avoir le concours. Hein.
Titulaire.
Ouais.
7 milliards de voisins, à l'occasion de la rentrée scolaire en France, on évoque, je crois que vous l'avez compris, les difficultés des profs à travailler, à enseigner. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Ils peuvent pas me parler de rien, alors je ne sais qu'écouter, convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés? Ils peuvent pas parler au king, nos fans indignés. J'ai pris les clés de la ville, une émission est casse-bine. Le renoir est trop au courant, l'artiste du moment mourant. Tu gagnes 10 et tu perds 100, toujours ce regard perçant. Ils peuvent pas me parler d'argent, je suis dans les tunnels et les gens. Ils peuvent pas me donner de conseils, il y a plus Robin des Bois. Aucune n'a répondu à qu'est-ce qu'on fait de toute cette oseille. Ils peuvent pas me parler de conneries, aïe aïe aïe, sous-bitch gonnerie. Ils peuvent pas me parler de rien, alors je ne fais qu'écouter, convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés? Ils peuvent pas parler au king, nos fans indignés. J'ai pris les clés de la ville, ton émission est à swing. Ils peuvent pas me parler d'armes, pour être sans ratatata. Que le djihad incarne, c'est le manque d'amour qui trappe. Ils peuvent pas parler de rap, qui suis, lâche-moi la grappe. Papy a dû faire Verdun, on la voit dans des verbes. Ils peuvent pas parler de France, en bus, nord, sud, est, wesh, 20 piges d'itinérance. Ils peuvent pas parler de rien, alors je ne fais qu'écouter, convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés? Ils peuvent pas parler au king. Nos fans indignés, j'ai pris les clés de la ville. Bonne émission est à spin, du respect dans ma cabine.
Oxmo Puccino, peuvent pas, c'est un peu le sentiment parfois de certains enseignants, en tout cas dans certaines localités. C'est ce que vous avez raconté avec votre livre. Ils ont tué l'école, Marion Armengo. Vous avez été remplaçante enseignante, institutrice, comme on dit, hein, maîtresse d'école en Seine-Saint-Denis, le département probablement qui pose le plus de problèmes pour l'éducation nationale et pas que l'éducation nationale d'ailleurs. Valérie Sipa, pas l'ami, vous êtes représentante du SNES, c'est le syndicat majoritaire chez les enseignants du second degré.
Tout à fait.
Où est-ce que vous en êtes de vos relations avec le ministre de l'Éducation, Michel Blanquer, après, on va dire, le mois de juin tellement tendu au moment des grèves partielles de correction du bac, et à la veille de redémarrer une nouvelle année scolaire avec la mise en place de la réforme du lycée, c'est-à-dire la suppression des filières à partir de la classe de première.
C'est-à-dire qu'au mois de juin, on a déposé très tôt dans le mois un préavis de grève, on disait au ministre, on a besoin de discuter du bac et de la réforme du lycée. Normalement, quand on dépose un préavis de grève, des négociations ou au moins une ouverture doit se produire. Aucune ouverture ne s'est produite et donc au moment du baccalauréat, des enseignants, peut-être pas de manière majoritaire, mais suffisamment nombreux, sont rentrés dans un mouvement assez dur de rétention des notes du baccalauréat. Et le ministre, tout en disant que sa porte était ouverte, mais en ne faisant aucun acte d'ouverture, a menacé de sanctions, a menacé de retirer quasiment le tiers du salaire de ses collègues. Enfin, il est rentré dans une grosse colère ministérielle, très menaçant. À la rentrée, là, finalement, il nous dit... Et puis, il a demandé aux collègues, faut pas oublier aussi, de faire des choses qui sont, d'un point de vue réglementaire, tout à fait contestables au moment du baccalauréat. Et donc, dans le second degré, les collègues, même qui n'étaient pas rentrés dans un mouvement de contestation, quand le ministre nous demande de faire quelque chose d'illégal, là, c'est tout juste pas possible. Et donc, ça a resserré le rang des collègues. Depuis fin août, on a un ministre qui a un discours beaucoup moins arrogant, qui a dit dans sa conférence de presse qu'il cherchait le bonheur des profs. Enfin, nous, on n'en demande pas tant. Hein. Nous, on veut juste pouvoir travailler convenablement et on veut avoir une reconnaissance salariale. Et là, il n'y a rien du tout, finalement.
Donc, il y a des négociations qui démarrent sur la rémunération des enseignants ?
Alors, non, parce que les négociations, elles ont eu sous lieu sous le gouvernement Hollande. Et là, on est dans la queue de comète du gouvernement Hollande. Et donc, en moyenne, les enseignants vont toucher 300 euros
annuels.
Brut annuels en plus. Alors que si vous prenez un enseignant
qui débute... Ça fait moins de 30 euros par mois. Hein,
voilà, moins de 30 euros par mois et ce n'est pas pour tout le monde. Si un enseignant, il y a dans les années, avant les années 2000, quand il démarrait, il touchait deux fois le SMIC. Maintenant, c'est un SMIC un quart. Au bout de 10 ans de carrière, c'est toujours pas 2000 euros. Et le ministre se contente de dire aux jeunes enseignants, demandez la prime d'activité, qui est en fait un dispositif qui a été mis en place en France pour les travailleurs pauvres. Donc après, il ne faut pas s'étonner si le métier n'attire pas les jeunes et si on se retrouve avec des postes non pourvus dans les établissements.
Alors en fin de carrière dans le secondaire, les enseignants gagnent plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Mais c'est vrai que par exemple pour l'école élémentaire, les enseignants sont 7% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Béatrice Pina, vous qui représentez le mouvement des stylos rouges, vous enseignez en école élémentaire. La question de la rémunération, aujourd'hui, elle est devenue brûlante.
Absolument, oui, oui. Donc, à la fois, les professeurs des écoles travaillent près de 25% d'heures en plus devant les élèves que les autres pays de l'OCDE, mais ils touchent 20% en moins de leur salaire. Donc, on nous demande de travailler plus pour un salaire qui est moindre. Donc oui, c'est un problème et de nombreux collègues n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, dans l'éducation nationale, on parle beaucoup de la MGEN, mais en réalité, c'est les enseignants qui payent la MGEN. Dans le privé, il y a eu une réforme qui permet à l'employeur de fournir une mutuelle pour les enseignants.
Ouais, vous parlez de la mutuelle santé et là, ce sont les enseignants qui la payent à part entière.
Tout à fait. Donc, Pas de mutuelle, nous devons la financer, pas de CE,
comité d'entreprise.
Voilà, tout à fait, aura des pâquerettes. Et beaucoup d'enseignants sont obligés, malgré le fait qu'on travaille déjà beaucoup et beaucoup plus que dans la moyenne des pays européens, nous sommes obligés d'avoir un deuxième travail. Donc nous donnons des cours particuliers, nous faisons des études, nous montons des projets avec les mairies pour avoir un deuxième travail. Alors, c'est très difficile pour nous de réussir à faire à boucler notre fin de mois, mais aussi pour les élèves. Je pense que c'est pas l'intérêt du ministre d'avoir des enseignants qui sont épuisés au travail, parce qu'en réalité, nous avons deux travails pour pouvoir simplement subvenir à nos besoins et vivre correctement.
Mmh. Valérie Sipahi-Malani, pour le secondaire, collège, lycée, il y a également beaucoup d'attentes sur la formation des enseignants. Où est-ce que vous en êtes ?
Alors, il y a des attentes sur la formation continue, parce qu'on nous demande, on parlait tout à l'heure des élèves en situation de handicap, par exemple, on nous demande de faire ce qu'on appelle la différenciation scolaire, donc d'être capable de nous adapter pédagogiquement aux élèves. Mais on n'est pas formé pour ça. Et donc, il y a très peu de formation continue à l'éducation nationale. Et quand il y a de la formation continue, c'est pour mettre en place des réformes. Et donc, en fait, c'est des formations qui sont des formations un peu superficielles.
Compréhension de circulaire.
Voilà, on va dire ça comme ça gentiment. Et donc, on n'a pas... Nous, ce qu'on dit, c'est qu'un prof, c'est un métier, on évolue tout au long de notre vie, on a besoin d'une palette pédagogique au service de nos élèves, et cette palette pédagogique, on doit pouvoir la travailler en formation continue. Mais on a un souci, c'est qu'on n'a pas de formateur, parce qu'en France, il y a très peu de recherches sur la pédagogie, sur ce qu'on peut faire dans la classe avec les élèves, en particulier dans le second degré, et donc il faudrait que le gouvernement renforce la recherche scientifique sur ces questions-là, ensuite forme des formateurs qui puissent ensuite former les profs. Et on n'est pas non plus demandeur d'être formé pendant nos périodes de vacances, soi-disant ans, nos périodes de congé, on prépare nos cours, on corrige des copies, on ne fait pas rien. Les profs du second degré travaillent en moyenne plus de 42 heures par semaine. Et donc là, il est passé aussi cet été la loi pour une école de la confiance, la loi de Jean-Michel Blanquer, qui pourrait permettre d'obliger les profs à rester se former pendant les périodes de vacances. Alors, mal payé, mal formé, mal reconnu, et en plus, on nous demanderait de travailler davantage. Là, c'est pas possible.
Mais cette loi de l'école de la confiance, aujourd'hui, un syndicat comme le SNES demande son retrait ou pas forcément ?
Vous savez, demander le retrait d'une loi, nous, on est pragmatique jusqu'à un certain point, on est responsable, on est dans les textes d'application. Il faut que les textes d'application limitent un certain nombre de mesures qui sont prévues par la loi. Alors, demander le retrait d'une loi, d'accord, mais bon, dans la pratique, c'est pas comme ça que ça se passe.
Mmh. Béatrice Pina, une université d'été des enseignants se tient. À quoi ça sert aujourd'hui, une université d'été des enseignants? C'est la première année, je crois, non?
Oui, tout à fait. Donc, il y a eu pendant 3 jours, lundi, mardi et mercredi, une université d'été des enseignants et de l'éducation, qui a permis déjà aux enseignants et il y avait des parents également, des lycéens, de se rencontrer, de parler et de ne pas être systématiquement en opposition à Blanquer. Bien sûr, on a dénoncé la politique de Blanquer et même une politique finalement qui existait déjà depuis de nombreuses années de destruction de l'école publique. Mais on a aussi souhaité faire des propositions. Comment nous souhaiterions construire l'école de demain. Donc on a été réellement force de proposition et on pense que c'est une première étape pour nous réapproprier le métier d'enseignant. On se trouve réellement méprisé et infantilisé par ce gouvernement. Et là, on est force de proposition, on est tout à fait capable.
Quelles sont les propositions qui seraient applicables, raisonnables et qui seraient des réponses à la situation dantesque qu'a décrit Marion Armengaud tout à l'heure?
Mais je pense que déjà des moyens. La première des choses, c'est des moyens. La deuxième des choses, c'est de cesser de faire des réformes seules. En fait, M. Blanquer est un ministre seul qui décide seul de la réforme du lycée, de la loi Blanquer. Les enseignants ne sont pas consultés, mais les parents non plus, les lycéens non plus. Voilà. Donc, ouvrir la porte. M. Blanquer nous a dit que sa porte était toujours ouverte. En fait, ce sont des effets de communication, c'est de la communication. Nous, on veut réellement tous s'asseoir autour de la table et participer ensemble à ce qu'on fera de notre école. Chacun a son mot à dire et ça suffit ce mépris.
Les stylos rouges dont vous faites partie appellent à des assemblées générales, à une mobilisation. En même temps, vous avez un peu de mal. Est-ce que la radicalisation des profs, qui était un peu dans le sillage des gilets jaunes et qui a toujours été annoncée, elle se produit pas vraiment non plus, comparé aux gilets jaunes. Pourquoi, à votre avis, vous n'avez pas assez de soutien de l'opinion? La grève des copies du bac, elle a quand même pas été très bien vécue par les familles?
Alors, je ne sais pas ce que vous appelez radicalisation. Je pense que des enseignants qui décident d'exercer leur droit de grève, ce n'est pas de la radicalisation. C'est simplement exercer son droit. De nombreux enseignants et des parents d'élèves aussi ont été extrêmement choqués par le mépris de Monsieur Blanquer lors de cette grève du bac, mais aussi choqués par le sabotage de cet examen du bac. Finalement, on a compris que cet examen, qui est pourtant très important pour nous, on prépare toute l'année nos élèves pour avoir cet examen final, et Monsieur Blanquer a choisi de le brader. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé très très important en juillet.
Alors quelles vont être vos actions là dans le courant du mois de septembre et à l'automne? Vous allez vous engouffrer dans le mécontentement de la réforme des retraites?
Alors on en parlera tous ensemble. Effectivement, bien sûr, les enseignants, et je crois que le ministre le dit lui-même, et même le président de la République, les enseignants, ce sont les premiers touchés par cette réforme des retraites. Donc bien sûr, nous serons dans la rue pour demander une réelle réforme des retraites, qu'on puisse partir avec des retraites dignes. Voilà. Ensuite, il y a différents types d'actions, c'est-à-dire que bien sûr, on sera là, on sera présent pour répondre aux appels à la grève. Ensuite, ce ne sont pas les stylos rouges qui organisent la grève. Il y a des organisations syndicales qui posent des jours de grève. Chacun son rôle. Donc on sera là dans les cortèges. Et puis aussi, il y a d'autres actions qui sont propres aux stylos rouges, notamment sur les salaires qui sont en train d'être menées.
C'est-à-dire ?
Vous verrez. Non, mais c'est des opérations pour dénoncer vraiment les conditions de travail dans lesquelles nous travaillons.
Parce que les stylos rouges trouvent aussi que les syndicats parfois sont trop mous ou que la grève ça sert plus à rien, qu'il faut inventer autre chose.
Non, pas
les
du
gilets
tout.
Jaunes
non,
l'ont prouvé.
Oui.
Valérie Sipa Imalani, alors vous, syndicat traditionnel, le SNES, majoritaire depuis très, très longtemps auprès des enseignants du second degré, comment vous envisagez la rentrée? Prudemment.
Moi, j'aime pas l'adjectif traditionnel, oui et non, parce que.
Le
SNES travaille avec les stylos rouges, travaille avec la cartouche, avec l'université d'été aussi. Donc, il y a plutôt un travail en commun de
différents
types de mobilisation.
C'est ça
on n'a pas besoin d'être dos à dos. De toute façon, on ne l'est pas. Dans les faits, on
ne l'est pas. Du coup, j'ai oublié votre question.
Non, comment vous envisagez la rentrée? Qu'est-ce que vous nous prédisez? Qu'est-ce que vous nous préparez?
Alors, il y aura certainement des mouvements ici et là dans des établissements qui sont en difficulté avec des emplois du temps, avec des manques de profs, des effectifs trop chargés. On a quand même 36 000 élèves en plus et 2 600 profs en moins dans cette rentrée, dans le second degré, donc c'est pas simple. Après, nous, on n'est pas là dans la verticalité. On est en train de consulter les collègues et puis on verra bien ce qu'il en sortira. Et comme vous avez cité la réforme des retraites, il y a une mobilisation prévue le 24 septembre. Donc là, nous en serons. Sur les questions éducatives, le moment de la rentrée, c'est quand même un moment où on a envie de s'installer, de prendre ses marques dans les établissements. Donc on fait ça tranquillement et puis on verra après.
Marion Armengaud, vous êtes redevenue journaliste après cette expérience en immersion. À l'époque, vous ne saviez pas d'ailleurs si vous n'alliez pas rester enseignante.
Ah ouais, la démarche était d'être enseignante. Ouais.
Qu'est-ce que ça vous a appris, y compris ce renoncement finalement? Pourquoi vous ne referez pas de deuxième rentrée?
Alors, j'en referai pas, j'ai pas dit mon dernier mot, je n'en sais rien. Réellement, c'est une expérience que je ne regrette absolument pas. J'espère que malgré tout ce que je peux dénoncer dans le livre de mon quotidien et des dysfonctionnements, ça se ressent que c'est une année que j'ai adorée. C'est un métier qui est formidable. Je trouve les enseignants et syndicats d'une patience quand je vous écoute, mais réellement, enfin, le décalage qu'il peut y avoir entre les politiques mises en place et vous qui vous battez juste pour avoir des conditions dignes pour instruire des enfants, je suis sidérée. En ça, cette expérience me change à jamais parce que réellement, vous manquez d'une considération, mais c'est très très impressionnant, quoi.
Merci en tout cas à toutes les trois. Merci à vous, Marion Armengaud. Ils ont tué l'école. Il faut absolument lire ce livre, hein, parce que c'est vrai que c'est on ne le quitte plus jusqu'à la fin, ce que les profs ne peuvent pas dire aux éditions du Seuil. Merci à vous Valérie Sipahi-Malani du SNES et merci à vous Béatrice Pina d'avoir été en ligne avec nous. Vous faites votre pré-rentrée aujourd'hui, membre du mouvement Les Stylos Rouges. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, parents enfants d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique de Marie-Rose Moreau après Voodoo Game Think Positive.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Comme chaque vendredi, la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série sur un sujet qui intéresse les sociétés tout entières, l'adolescence avec un grand A. C'est un mot d'ailleurs assez flou. Mais ce qui intéresse, ou plutôt ce que redoutent les parents, c'est la crise d'adolescence. Alors, est-ce que cette crise est universelle?
Alors, on passe de l'un à l'autre de manière bien différente, d'une époque à l'autre et d'un endroit à l'autre. En fait, c'est pas la puberté hein, qui signe l'adolescence, mais la société qui définit les modalités de passage entre ces deux âges. Alors, en fait, cette question, est-ce qu'elle est universelle, la crise d'adolescence? De grandes anthropologues femmes, en général, se la sont posées. La première, c'est Margaret Mead en 1930. Elle l'a étudiée chez les enfants de Samoa, c'est en Polynésie. Plus tard, Françoise Héritier l'a étudiée chez les Samo d'Afrique, qui au Mali et au Burkina Faso. Elle a étudié la manière dont ça se passait pour eux avec les Mouria d'Inde. Et plus récemment, ça a été publié dans la revue L'Autre cette année, Christina Figueiredo, qui est aussi une grande anthropologue de l'enfance, qui elle a travaillé en pays Touareg, au Mali. Elle l'a étudié, elle a écrit un article d'ailleurs qui se nomme exactement comme ça, « La crise d'adolescence est-elle universelle ?»
Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce qu'on fait sa crise d'adolescence chez les nomades Touareg par exemple?
Ce qui est sans doute universel, c'est que la transformation corporelle et pubertaire se fait avant la maturation psychique et affective. Du coup, il y a une période plus ou moins longue où les adultes et la société tentent de canaliser les ardeurs, et en particulier les ardeurs sexuelles des adolescents, et de donner une forme acceptable par la société à cette sexualité, à leurs impatiences, mais aussi à l'éducation et à l'expérimentation sentimentale. Alors chez nous, aujourd'hui, ça se fait de manière un peu individuelle et très permissive. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais dans d'autres endroits, il y a des règles et des rituels d'initiation qui accompagne cette période de transformation.
Oui, et ce qui scandalise d'ailleurs certaines cultures quand elles regardent la façon dont nous traitons nos adolescents, hein, avec beaucoup de permissivité, comme vous le disiez, en tout cas beaucoup de tolérance. À quel rituel vous faites allusion?
Alors par exemple, chez les Samo du Mali et du Burkina Faso, comme dans plein d'autres cultures d'ailleurs, en Afrique mais aussi en Inde, traditionnellement, on choisit un mari à la petite fille dès sa naissance. Ensuite, à l'adolescence, les jeunes filles choisissent, elles toutes seules, un élu qui sera leur amant avant le mariage. Avec
Uniquement avant le mariage.
Uniquement avant le mariage, avec ce mari qu'on lui a prescrit. Le père valide ce choix et il construit une case à sa fille pour qu'elle puisse recevoir son ami amant. Il est recommandé que la jeune fille aille rejoindre son époux, donc plus tard, après avoir expérimenté des choses avec cet amant, avec un enfant qu'elle a conçu avec celui qu'on appelle un amant prénuptial. Cet enfant, il est garant de la fertilité, mais il est aussi le souvenir de sa vie d'adolescente libre et il sera reconnu par cet époux et élevé comme n'importe quel autre enfant né pendant le mariage. Et chez les Samo, eh bien, là aussi, on prend aussi un partenaire sentimental et sexuel, mais on ne doit pas tomber enceinte. Là,
Ça se complique,
il ne faut pas. Mais si on tombe enceinte, c'est une transgression. Chez les Mouria d'Inde, c'est pareil, un mari est prescrit. Mais avant la puberté, les préadolescents, donc garçons et filles, vont dans les dortoirs collectifs et s'initient à la sexualité, avec quand même un tabou. Ne pas avoir de relation entre frères et sœurs, ni entre futurs époux, et ne pas tomber enceinte. Vous voyez, ça dépend en fonction des lieux. Et dans d'autres lieux encore, les enfants d'une même classe d'âge, donc les préadolescents, sont mis ensemble et passent des épreuves initiatiques qui leur permettent de découvrir les secrets des adultes, hein, par exemple. Donc vous voyez, il y a plein de manières de ritualiser, mais ça dépend dans quelle société, à quel moment on est.
Finalement, ce qui varie d'une culture à l'autre, c'est quoi? C'est la tolérance sociale vis-à-vis des soubresauts, des pulsions de l'adolescence,
hein. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi, de ces pulsions? Alors, les pédopsychiatres, les anthropologues ont comparé cette période de l'adolescence à un voyage, à un tourbillon, à un maelstrom, à une maladie dont heureusement on guérit toujours, dit Winnicott.
Le pédopsychiatre.
Oui. Il compare même l'adolescence à Winnicott, à une folie passagère. C'est un peu comme après la naissance d'un enfant. Les rituels, les parents, la société sont là pour contenir cette folie, ce tourbillon, et pour que les adolescents puissent faire ce passage, se sentir suffisamment sûrs et avoir envie de devenir adultes. Et alors, j'ai une très belle phrase qui est rapportée par Françoise Héritier à propos d'une jeune fille indienne, des Mouria, qui, au sortir du Gotul, ces dortoirs collectifs où on s'initie à la sexualité à cette période, cette jeune fille dit... C'est comme pouvoir s'asseoir après un long voyage. Finalement, c'est beaucoup plus calme après. C'est cela l'adolescence, un long voyage, parfois tourmenté.
Merci Marie-Rose Moreau. On démarre cette série sur l'adolescence. C'était le premier épisode. Et la semaine prochaine, on parlera des adolescents, pourquoi ils aiment s'engager, pour ceux qui écoutent RFI. Et bien sûr, toute cette série est à écouter en rafale, comme on dit aujourd'hui, en podcast sur RFI.fr, mais également sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Delphine de Dianou, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. Lundi, 7 milliards de voisins. Prendre un vélo pour aller travailler. Quelles sont les meilleures villes pour pédaler? À quelles conditions aussi le vélo peut-il gagner du terrain? On attend bien sûr vos points de vue, même si vous pédalez de manière très, très, très minoritaire dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays. Le numéro de téléphone ne change pas. 33 1 84 22 71 71. Il y a aussi bien sûr les réseaux sociaux et notre adresse mail 7milliards@rfi.fr. Très bonne fin de semaine. À lundi, les voisins et les voisines en direct.